De nombreux djihadistes sont jordaniens. On les compte par milliers sur les différents théâtres du djihad aujourd'hui, à commencer par la Syrie et l'Irak. Et la Jordanie est d'autant plus symbolique que le père même de l'État islamique était jordanien, Abou Moussa al-Zarqawi. C'est le cher de ce groupe, c'est la figure centrale et il le reste bien au-delà de sa mort. Et évidemment, la Jordanie est donc totalement dans la ligne de mire des djihadistes. Et moi, je pense pour ma part qu'il faut s'attendre à une recrudescence des incidents et à un certain nombre d'attaques dans les mois qui viennent. Il n'y a aucune raison, compte tenu de la conjonction des facteurs que je viens de décrire, que la Jordanie puisse échapper aux logiques de la violence qui, tragiquement, on le voit de jour en jour, attaque après attaque, continue de déchirer tout le Moyen-Orient.
Sachant cela, comment la Jordanie répond à cette menace terroriste? La presse jordanienne titrait notamment « La Jordanie citadelle contre le terrorisme », c'est encore vrai?
Non, je pense qu'il faut justement sortir de cette idée de citadelle ou d'îlot, tout comme on avait pu aussi utiliser ces termes dans le cas du Liban, et on a bien vu que le Liban a aussi été rattrapé par les logiques de la violence en Syrie notamment. Je crois qu'il faut sortir de ces mythes finalement qui consistent à dire qu'il y a des territoires, des pays qui sont aujourd'hui préservés. L'État islamique frappe à deux niveaux, au niveau des pays de la région, donc des régimes qui sont considérés comme des régimes apostats et des régimes collaborateurs de l'Occident, ce qui est le cas de la Jordanie aux yeux des djihadistes, puisque cette dernière coopère non seulement avec la coalition dirigée par les États-Unis, mais aussi à une étroite coopération sécuritaire avec Israël, qui est évidemment l'un des ennemis par excellence des djihadistes et qui l'a toujours été tout au long de l'histoire contemporaine. Maintenant, cela ne veut pas dire que la Jordanie ne va pas répondre, on le voit très bien, il y a d'ores et déjà volonté de rehausser les niveaux de sécurisation. Il faut aussi préciser que la Jordanie a fermé ses frontières, donc il y a eu un accueil des réfugiés, mais dorénavant la frontière avec la Syrie est fermée, tout comme d'ailleurs la Turquie l'a fait, compte tenu encore une fois des risques de contagion.
Vous avez parlé des mesures, est-ce que la Jordanie est vraiment équipée pour faire face à cette menace?
Non, et le problème de ce point de vue, c'est qu'il y a un défaut de coopération régionale au niveau sécuritaire, c'est-à-dire que les gouvernements, je parle notamment des gouvernements arabes, ont tenté des rapprochements sur le plan sécuritaire, mais évidemment les clivages politiques, notamment autour de la guerre en Syrie, les alliances qui ont été passées, qui sont des alliances divergentes, encore une fois du fait de la lecture qui est faite du conflit syrien notamment, mais aussi du conflit irakien dans une moindre mesure, qui a engendré de fortes divergences, et on le voit, des guerres hégémoniques en fait livrées entre puissances régionales. Tout cela en réalité ne va pas dans le sens de la sécurité. Il faut une coopération beaucoup plus grande entre pays de la région pour faire cesser, je dirais, cette contamination. Mais encore une fois, comme on a des guerres d'hégémonie, une déchirure confessionnelle qui n'est plus seulement aujourd'hui irakienne et syrienne, mais qui est régionale, tout cela est rendu très compliqué. Les forums de discussion type Ligue arabe ou autres plateformes multilatérales de discussion au niveau régional sont largement discréditées. L'ONU n'est pas parvenue non plus à insuffler cela. L'issue du conflit syrien étant inconnue, l'issue du conflit irakien étant inconnue et la violence ayant pris le pas sur les logiques de pourparlers, de discussion, malheureusement, je ne crois pas dans l'immédiat que le contexte va se prêter à un arrêt des violences ou à moins d'attentats, bien malheureusement.